Ce podcast est présenté par Mise au jeu.
Mise au jeu. Gâches-tu?
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
Le Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN, le Football Club. La petite série du soccer.
Rafraîchir, il se peut que ce soit live en ce moment, donc je vais parler. Et nous sommes en direct. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri, édition 100% Impact de Montréal, avec Sofiane avec vous. Nous sommes en direct sur Twitter. Sid et Nilton aussi, vous nous voyez. Hey, salut tout le monde! Salut. Donc, on a fait le test un peu plus tôt avec Nilton. La Sid nous a rejoint pour parler, c'est pas un 100% Impact, ça. On va peut-être parler du mondial, dépendant du temps. Donc, merci beaucoup d'être là. Nous sommes, quelle journée aujourd'hui? On est le dimanche 17 juin 2018. Et voilà, fête des pères. Joyeuse fête des pères à tout le monde. Pour tester. Là, je vois, oui, le Twitter est parfait, le Periscope est live. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. On fait un petit test, permanent. On va voir si ça marche bien. Donc, merci beaucoup d'être encore là. Donc, si vous êtes là, vous nous suivez sur Twitter @CanFootClub. Si vous écoutez le podcast, vous êtes inscrit à notre plateforme Podcast Soccer, exclusif Soccer, la seule au Québec, la seule au Canada. Elle a deux. Elle a une des meilleures au Canada et la seule au Québec. Can Football Club Plus. Donc voilà, vous pouvez s'inscrire à nos différents podcasts. C'est pas compliqué. SoundCloud.com/CanFootballClub. Sinon, via votre plateforme de balado diffusion préférée, allez, mettez les mots-clés Can Football Club Plus. Donc, merci beaucoup. Et encore une fois, merci à tous nos patrons sur patreon.com/CanFootballClub qui nous supportent. Merci encore, les nouveaux, incluant Raphaël van der Heyden. Bonjour, Raph. Bienvenue. Et dommage pour les Pays-Bas et aussi pour l'Algérie. Nous sommes des frères de misère. Donc, c'est nous aussi, mais lui, il est frère de misère à moitié. Il peut choisir. Genre, ah, moi, je choisis. C'est correct. C'est ça la vie, hein, la vie des immigrés.
C'est pas comme une seule. Hein. On en a plusieurs comme ça, là.
Non, mais attention, me fais pas passer pour qui je suis pas, là. Je choisis pas au gré du vent, là.
Non, exactement. Non, il y a pas de problème. Non, si, moi, j'aurais pu faire comme beaucoup d'autres citoyens d'origine de pays arabes qui sont fans de l'Espagne de façon bizarroïde depuis 2010. Moi, je choisis de ne pas le faire. Donc, merci d'être là.
J'aimerais saluer Raphaël parce que c'est son message qui a fait en sorte que je vienne vous retrouver pour un petit après-match. Donc voilà, vos messages de support et de soutien changent beaucoup. Je suis désolé, moi, j'ai pas une très bonne connexion là où je suis. Donc, parfois, mon image va geler. Donc, je m'en excuse d'avance. Puis, j'espère quand même que ça va pas nuire à l'expérience globale de nos auditeurs.
Allez, cadeau, je te mets en diffusion le premier, là. Boum! Image première.
Oh là 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 là. DJ, ça.
DJ.
Mais, tu vois, tu m'as fait geler tout de suite. Voilà. mets-moi dans un petit coin.
Petit coin, parfait. Donc voilà, on va, merci. Puis, Raphaël van der Heyden, il t'a mis le pressing comme un bon Marc van Bommel pour que tu viennes dans le podcast. Donc voilà, bienvenue Sydney et bienvenue tout le monde. Encore une fois, les autres podcasts, Borgana Podcast, sur la ligne, MLS Africa Plus, Match en main, Le Point Vandano qui sont chauds en monde mondial, sans arrêt. Et la nouvelle chronique journalière de Étienne Boutillier qui nous donne le condensé du mondial. Donc les gars, canfootballclub, c'est tout.
Toujours pas de podcast pour le Real Madrid pour faire contrepoint?
J'ai des contacts, Real Madrid, j'ai des contacts pour l'Espagnol de Barcelone. On attend. J'ai des contacts parce que là, l'hégémonie barcelonaise, j'en ai marre un peu. Donc voilà. Donc on va commencer, à parler de foot, notamment l'Impact de Montréal. C'est bienvenue à votre après-match. 100% CANFC. Donc, l'Impact a battu Orlando 3-0 mercredi dernier au Stade Saputo. Enfin, une victoire. Avec le mondial, ça fait tellement longtemps qu'on a l'impression que le match a été joué à 2 mois, ce qui est genre 15 matchs au mondial. Je sais plus ce qui se passe. Donc voilà, juste pour vous rappeler rapidement, Piatti qui marque ce penalty, un but contre son camp de Amrou Tarek, et ensuite Piatti sur une belle passe de Taider qui marque le but du 3-0. L'Impact respire, inspire un peu après une belle victoire contre un Orlando assez catastrophique et qui vient de virer son coach Jason Kreis, un coach que je trouve qui était nul, et ça confirme sa nullité. L'Impact en ce moment, 9e de la conférence de l'Est avec 15 points, avec 18 buts marqués, 31 buts encaissés. Donc un shutout, ça fait du bien à Blanchichaz. Et en termes du match, l'élément partant, c'est un élément assez classique, mais il faut que je le ressors maintenant. Je suis sur le mobile, désolé tout le monde. Du côté de Orlando,
c'était Camacho, Fanny en défense centrale, Bush gardien, puis on avait Lovitz d'un côté, Duval de l'autre, Piet et Taider qui joue maintenant, je pense qu'on peut parler d'un double pivot. Et on avait quand même un choix assez fort avec Vargas dans un rôle de bon 10, 9 et demi comme vous voulez. Oui. Piatti d'un côté, Mankusu selon moi un autre choix fort. Et sur le côté droit, ça m'échappe. Il y avait qui sur le côté?
C'est Edwards.
Edwards.
C'était Edwards qui a commencé. Edwards a commencé le match. Okay.
Ouais. Oui, Edwards, Piatti, Vargas, Mankusu. Donc voilà, du côté de Orlando, Bendik, Rocha, Amrou Tarek, Spector, Allen, Higuita, Rosel, Coleman, Kleschtan, Justin Merrem et Dwyer. Là, Orlando avait clairement les chances de marquer des buts, mais ils l'ont pas fait. Et Piatti les a punis. Donc, du côté de Twitter, les évaluations, Saputo d'Or, Trop Poutine et Gilard Dinfoin, bon, je vais lire certains du public, puis on va réagir dessus rapidement. Après, on va passer au débat chaud qu'on a préparé pour vous. Du côté de Lucie Côté, Saputo d'Or, Piet encore et Fanny. Du côté Trop Poutine, Mankusu, commence à faire pitié, mais je parle pas de salaire là. Gilard Dinfoin, le gardien d'Orlando, sur le but de Piatti. Je pense qu'elle fait référence au fait que Piatti a fait coucher Bendik sur une belle feinte. On voit ça souvent dans le football. Du côté de François Boisclair, Saputo d'Or, In Fanny We Trust, Trop Poutine, Mankusu, toujours autant de manque de réalisme. Gilard Dinfoin, Bush qui dégage un long ballon dans les gradins. Et un petit dernier, JTop07, Saputo d'Or, à Fanny, il donne de forts arguments pour le re-signer. Nilton, un petit hint à toi. Ouais. Trop Poutine à Mankusu, mais mention traînera par Duval qui était une vraie passoire encore. Encore une référence à Newton pour Duval, Gilard Dinfoin à la pluie qui nous a donné un spectacle du but devenu trop petit toute la soirée. Donc voilà, un petit dernier, un autre, j'ai oublié de le mentionner, Borat Simono de Borat Rock and Sport, pardon.
Oh là là.
Borat.
You speak in English.
J'ai oublié le podcast de Borat. Excusez-moi. Sport Borat et Rock'n'Roll. Excuse-moi Borat, ouais. C'est dimanche soir. Désolé. Son tapeau d'or, c'est Camacho que je protège depuis le début. Trop petit de Mankusu. Gilard Dinfoin. Gilard Dinfoin, Hugo Maudit qui avait prédit 3 fois la cloche. Un instit de vin. Hashtag Nostradamus. Donc voilà.
Je profite pour vraiment remercier tout le monde qui participe, hein. Lucie Côté, François Boisclair, Padbou, Sébastien Roy, Allé Dub, JTO B7, Borat, évidemment, Neos, salut tout le monde, Titch Tournesol, Dominique Richaud, Stéphane Rad, Adi Raphaël, Maxime Cardinal. Vraiment, tous vos tweets, on les lit, Riyad, Dr. Foot, Jean-Michel, Normand Wallet, etc., etc., Patrick, Mathieu, Daniel, Julien, Fred. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour tous vos tweets qui permettent vraiment de pouvoir avoir un beau portrait du match. Et, j'imagine qu'on va faire le tour de table pour savoir qui a d'autres Poutine, etc.
Oui, il n'y a pas de problème, on va le faire. Du mon côté, de mon Saputo d'Or, Piatti, il n'y a pas de doute, il n'est pas là, l'impact est nul. Il est là, l'impact est moins nul, et en général mieux, donc il marque deux buts. Donc Piatti, c'est mon Saputo d'Or. George.
Wow. Franchement,
je suis prévisible
un peu avec Piatti. Non, mais Piatti n'a pas eu un beau match, là.
Ouais, mais c'est un buteur, c'est comme Ronaldo. C'est comme Ronaldo, il a pas eu un bon match, mais il marque trop.
Non, sérieusement, ce match-là, Piatti, il faisait pitié jusqu'au but, il avait l'air complètement brisé, il réfléchit trop à ses gestes, là, il y a quelque chose qui se trame avec lui, là, je peux pas croire que tout est beau, puis que Piatti va rester à Montréal jusqu'à la fin de l'année, sur le terrain, ça semble évident qu'il est de passage, là, en tout cas, bref.
Est-ce que tu penses qu'il va partir ailleurs? C'est ça que tu dis?
Ben, c'est de plus en plus évident. Il est plus du tout le même, hein, sur le terrain. On le voit. Tu sais, Piatti, il est bon quand il est libéré puis qu'il réfléchit pas puis qu'il essaye, mais au moins il est libéré quand il... là c'était pas le cas là. Mm-hmm. Ça a été compliqué pendant tout le match. Là à 2-0, il y a eu le, tu sais, il y a le geste de génie pour marquer le but et coucher le gardien, mais avant ça c'était pas très beau là. Encore une fois, un joueur de la semaine que je comprends pas, bref, en tout cas.
C'est moins pire que Vargas. Mais Tonsa Poudoudor, c'est Tider, alors, c'est ça?
C'est Tider. Proche, malgré tout. J'ai beaucoup aimé le nouveau rôle qu'on donne à
Tider.
J'aime beaucoup le nouveau rôle qu'on donne à Tider. C'est pas nécessairement un milieu défensif, là, mais on lui donne quand même un rôle plus logique avec ses qualités techniques. Je sais pas ce que vous en pensez, là.
Oui, moi je suis d'accord. Moi, c'était aussi mon saputo d'or, Tider. Je l'aime beaucoup à côté de Piet. Je pensais qu'ils étaient pour lui donner peut-être plus de responsabilités dans l'entrejeu, et effectivement, il les a prises. Défensivement, je pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais dans la relance et dans ce que ça permet auprès justement des latéraux pour la transmission entre la défense et l'attaque, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis parfois, il se projette. Ça n'a pas l'air d'être une consigne de se projeter, mais parfois il le fait. Et quand il le fait, c'est bien parce qu'il a quand même une bonne technique. Et donc, moi, c'était vraiment mon saputo d'or. Je suis surpris d'ailleurs même que ça soit pas celui de Sofiane. Pour une fois qu'il avait une perche grande comme le toit du stade, comme le mât du stade. Tider, c'est lui qui provoque le penalty. Penalty qui était peut-être un peu prévisible. Hein. La Ligue a tendance à beaucoup réagir lorsqu'elle s'est fait critiquer. Généralement, l'impact a toujours une récompense au match qui suit. Donc,
non, c'est vrai.
J'étais pas trop surpris de ce penalty.
Et du côté trop Poutine, Sid?
Pour le trop Poutine, Duval, c'est compliqué. Duval, c'est compliqué. Mais en même temps, je veux te dire que Mancosu, je crois que ça l'a encore plus. Finalement, genre, l'équipe joue à 10. Et, trio trop Poutine, Vargas aussi, je vois même pas qu'est-ce qui distinguerait l'un des trois un peu plus. Donc maintenant, on a trio Poutine, Mancosu, Vargas et Duval.
Moi, ce qui m'a dérangé de Mancosu, c'est son comportement sur le terrain. On parle pas de des occasions ratées, là, mais c'est son comportement avec ses collègues. T'es déjà que t'es pas sans reproche sur un terrain, puis je l'ai vu gueuler après Duval et Edwards. Pourtant, tu sais, oui, ils ont beaucoup de déchets, là, mais ils se donnent. Tu sais, Edwards s'est beaucoup donné dans ce match-là. Il a eu l'air moins fou que Mancosu. Puis quand tu vois un gars qui est payé 10 fois plus que toi, t'engueuler sur le terrain, mais tu produis pas, c'est un peu fatigant. Là. J'espère que on est dans les derniers milles là, de Mancosu, mais ça va être compliqué de s'en débarrasser.
Idem, c'est Mancosu, mais je le donnais pas avant parce que c'était juste évident, il fallait trouver quelqu'un d'autre, mais dans ce cas-là, c'est Mancosu, ça va mal, mais il n'y a pas de surprise, quoi. C'est comme Vargas, c'est le Bernardo Silva ou le Messi de la MLS, là, mais là, c'est une catastrophe. Vergas, là, en termes de jeu et de rôle, et aussi Silva, c'est un autre problème, mais dans ce match-là, il n'est pas vraiment en question. Mais Mancosu, c'est assez mauvais. J'ai pas d'autre chose à dire sur lui. Tout a été dit.
Sur Mancosu, je trouve que j'ai été surpris sur le centre de Lovitz de le voir marquer. Et là, je me suis dit, mais attends. Après, j'ai réalisé que c'est pas normal d'être surpris qu'un attaquant il marque. Oui. Ça prouve un peu que Mancosu est au fond du trou, quoi. Je me suis rendu compte aussi que sur Twitter j'étais pas le seul à être surpris qu'il marque. En fait, il n'a pas marqué. C'est un but contre son camp.
Il était très loin du joueur.
Bon, il fait la course. Il provoque sûrement le tac du défenseur. Mais c'est ma réaction initiale qui a été vraiment de Mancosu a marqué.
Exactement. Moi, j'étais énervé. J'ai dit non, il a marqué. Il vient d'invalider 2 ans de mes critiques sur lui. C'est inacceptable. Mais non, mais c'est dommage pour lui.
Au contraire, j'étais très content pour lui. Je pensais je reste un peu d'accord avec Nilton. Ce sera pas facile pour l'impact de trouver un deal pour lui. Donc, vaut mieux qu'il rentabilise au maximum possible son statut. Donc, non, j'étais très content pour lui, mais c'était ce sentiment de surprise.
Au fait, s'il joue, là, c'est vraiment le principe de la vitrine. Là. Ils espèrent que, justement, qu'il marque un but comme ça au tout hasard, puis que pendant que les scouts de la série B regardent Montréal pour peut-être dire est-ce qu'on prend une chance avec Matteo et oui ou non, puis que ouais. Puis que ces recruteurs-là se fient pas seulement aux statistiques depuis un an et demi, puis qui se fient sur un match éclair de Matteo pour pouvoir s'en débarrasser, parce que ça va être hyper compliqué. Il faut libérer de l'espace dans la masse salariale. Il faut libérer de l'espace au niveau spot international. C'est sûr que l'impact commence déjà son recrutement pour faire rentrer des gars dans le dernier tiers. Il va pas attendre de se débarrasser de Matteo pour recruter. Mais il faut être très, très imaginatif.
Non, ça, c'est vrai. Puis l'impact doit faire ça. Du côté de Jardin Foin, j'en ai pas. Si vous en avez, allez-y. Mais
Il a mouillé.
Voilà. Je pense qu'il
a mouillé fort. 90 minutes de pluie.
Voilà. Donc, c'est le Jardin Foin. Mais c'est ça, c'est le Jardin Foin, c'est... Là, depuis quelques semaines, c'est la saison là qui est un peu Jardin Foin.
Non, pour moi, mon Jardin Foin, c'était pas ça. C'est l'annonceur maison qui dit pas le nombre de personnes au stade. Je crois que que c'était un oubli plus que volontaire. Et j'ai trouvé ça.
Finalement, il y avait combien?
Cheap shot. Je sais pas, mais je pense que sur le rapport du match de la MLS, il est possible de trouver le nombre là. Je rechercherai durant l'émission.
Ouais, donc ouais,
c'était 15 000, ça s'annonce bien, 15 000. Bon, il n'y avait pas 15 000 personnes. Mais...
Et 15 000 qui ont acheté, donc pour Joey Saputo, tant mieux, c'est l'argent qui rentre dans les caisses.
On a trouvé, c'est 15 000 billets vendus, donc voilà. Donc,
annoncé, ouais.
Annoncé, donc il aurait pu l'annoncer.
Oui, exact.
Comme dirait Saphir, et voilà. Donc voilà. Donc bon, au niveau des débats qu'on a aujourd'hui, on n'a pas lancé le fameux tweet pour des questions. Si on voit Twitter, vous posez des questions, on va essayer d'y répondre. Mais le plus important, maintenant qu'on approche du mercato d'été qui va ouvrir dans pas longtemps pour la planète entière, c'est le mercato de l'impact. Maintenant, il y a plusieurs sujets. Il y avait le sujet initialement de Vitor Cabrera. Nielsen avait tweeté info exclusif du George Mendes du hashtag IMFC. C'est pour
beaucoup moins riche.
Et c'est que Vitor Cabrera est en partance de l'Impact. L'Impact veut s'en débarrasser pour libérer une place internationale qui pourrait ouvrir quelqu'un d'autre pour arriver ou pas. On ne sait pas encore. Il y a aussi tu dis aussi que Rod Fanny va re-signer avec l'Impact sous peu, dans une semaine ou deux. C'est les infos que tu as qu'il va probablement se re-signer avec l'Impact.
Concernant Cabrera, ce que j'ai entendu, ben ça reste à valider là. C'est il y aurait probablement des discussions déjà avec trois clubs, là, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. On dirait que il y a des affinités. On parle de New England, on parle de peut-être Minnesota, puis là le tout dernier là, ce serait Colorado. Donc ça sent le Vitor Cabrera contre un draft pick qui vont être finalement rechippés quelque part aussi. Là. Bref, c'est compliqué. Hein. Échanger un gars avec un spot international, là, c'est hyper compliqué. Les autres aussi, il faut qu'il y ait cet espace-là. Mais au Colorado, ça va tellement mal. La greffe avec le nouvel entraîneur prend pas du tout. Hein. Ils sont sur une séquence là, de défaites au Colorado. Je suis pas sûr que Victor, ça va être la solution, mais bon.
Mais l'avantage que Cabrera soit sud-américain, c'est que les marchés de l'Ouest des États-Unis cherche beaucoup des joueurs sud-américains. On m'a dit qu'au niveau des scouting reports, avoir des joueurs hispanophones, c'est important. Je parle de Houston, Dallas moins parce qu'ils sont de recrutement interne dans tous les cas. Colorado revient souvent. Colorado, j'étais étonné parce que je connais pas trop la géographie socio-démographique du Colorado, mais ils cherchent beaucoup, les Rapids cherchent beaucoup de joueurs hispanophones. Donc, très important. Donc, est-ce que ça pourrait booster le profil de Cabrera? Peut-être, mais il faut que ce soit un bon joueur. Moi, à la base, Cabrera, c'est un joueur correct, bon MLS. C'est pas une superstar, c'est pas Thiago Silva, c'est pas José Font, mais c'est un bon petit joueur MLS qui peut dépanner, qui peut être un bon titulaire ailleurs. Donc voilà, l'Impact essaie de bouger. Et en parlant d'un autre argentin, si tu voulais parler de Cabrera avant qu'on passe à un autre argentin.
Cabrera, c'est toujours un peu difficile à évaluer. Donc quand il est dans un bon jour, c'est un excellent défenseur au niveau du duel. Il a une très belle agressivité. Moi, j'ai déjà dit, je pense, à un bilan de saison. Cabrera, quand il est confortable, il est beaucoup moins intéressant. Il faut toujours trouver un moyen, peut-être c'est le rôle du coach, du management, de toujours le garder motivé pour qu'il sorte son A-game, puis excepté parfois voilà des trous d'air au niveau de certaines fautes coûteuses ou erreurs techniques. C'est un joueur qui potentiellement est très intéressant, puis s'il est jeune, c'est un joueur dont on aurait pu faire un projet avec Rémy Garde. Et si Rémy Garde lui décide après 6 mois que ça va pas, mais je reviens sur à ses propos sur l'attitude, sur la culture d'entraînement. Et sûrement qu'à ça doit faire défaut. Déjà que le hors terrain, ça peut être un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a un peu moins de latino-américains, mais le hors terrain c'était pas trop ça. Il y avait quand même quelques épisodes. Et donc je suis un peu déçu parce que je crois que c'est un joueur qui peut être intéressant, mais je comprends la logique de vouloir l'échanger aussi.
Donc d'un argentin à l'autre, on va évidemment parler de Ignacio Piatti qui a été critiqué bizarrement par Joe Saputo il y a quelques semaines au micro de Jérôme Filosa, disant que est-ce que j'aurais dû signer Piatti par exemple à 6 millions et j'aurais peut-être signé 2-3 joueurs à 2 millions par exemple. Piatti a clairement entendu ça. On le savait de source sûre que rapidement il l'a appris rapidement et que ça l'a affecté. Même Rémy Garde avait confirmé la semaine d'après, on voyait que Piatti jouait pas très bien. Et il avait dit clairement, vous savez, il avait dit, pour faire la paraphrase, oui, Piatti a entendu ce que son président a dit. Et ensuite, Piatti, après le match, a dit clairement, pour résumer une phrase clé à dire, au micro de Joey Alfieri, puis il y avait aussi Sid, évidemment, puis je pense aussi Kevin, Sid, c'est à moins que je me trompe, tu peux me corriger.
En fait, j'aimerais quand même donner un. Bon, vas-y, donne la citation, puis je me donnerai un peu de contexte aux auditeurs.
Voilà. Donc, au fond, ce que Piatti a dit, il répondait à une question du référé pour dire qu'est-ce qu'il a pensé des propos de Joe Saputo. Puis il a dit, le président a le droit de faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Puis la phrase qu'il a dit, c'est Joe Saputo pense que je suis un problème. Je suis le problème. Je peux trouver un autre club.
Je pense que c'est réglé dans sa tête là.
En tout cas, mais Sid va ajouter un peu le contexte dans le vestiaire.
déjà, à l'écoute, il dit pas je peux aller. Il dit je aller. Donc, on sait pas très bien si c'est je vais aller, je peux aller. Donc, il dit vraiment je et aller. Il manque la liaison. Et puis, tout de suite après, Pat Vallée, le directeur de communication de PAC, dit attention, hein, le français de Piatti est un peu approximatif. Donc, attention comment on interprète ces propos. Donc voilà, c'était lui, c'est comme un petit warning parce qu'il savait qu'à ce moment-ci on tenait la quote d'un très très long point de presse. Dans le fond, on était là encore plus d'une demi-heure après l'allocution de Rémy Garde, ce qui est généralement pas le cas. Normalement, c'est beaucoup plus court, mais les joueurs mettaient beaucoup beaucoup de temps à arriver. C'était long. Et d'habitude, un joueur du calibre de Piatti, enfin, du statut de Piatti, aurait été déjà petit. Mais il tenait à venir au scrum, il tenait à dire quelque chose. Donc finalement, une partie des reporters qui n'avaient pas un deadline, un livrable télévision et autres, étaient encore restés. Mais une partie était déjà sortie des vestiaires. Et parce que bon, c'était assez long. Mais d'autre part, on est resté parce que Piatti, qui s'exprime assez rarement, tient à venir parler. Donc il faut quand même prendre ça en considération. Il voulait passer un message. Peut-être que la question de Joey effectivement a aidé, mais dans ce contexte-là, sachant quand même que les déclarations de Joey datent un petit peu, hein, je veux dire, c'est quand même un bon 2 semaines, et qu'il aurait d'autres occasions de répondre et qu'il l'a pas fait. Mais il voulait le faire vraiment. En mode après match, après aussi une performance de 2 buts, je crois que ça a joué aussi dans ce timing pour dire ces propos, on peut les prendre dans plusieurs sens. Hein, comme c'est vrai que c'est pas lui qui décide, mais tout à fait ça on le sait. Mais d'affirmer qu'il peut trouver un autre club, c'est aussi un rappel auprès du président et auprès des partisans que lui aussi il a son mot à dire et que derrière si Joey fait des calculs sur ses salaires et etc ses rendements, lui il fait des calculs sur comment on le perçoit, comment on le ressent, et puis oui. Si on trouve que c'est un problème, il aura aucune hésitation et aucun problème lui à trouver un autre point de chute. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pensé que qu'il était un petit peu coincé avec le salaire qu'il touchait, avec son âge. Je répète, je vais pas tourner ma veste. Mais Piatti et peut-être que même l'Impact pensait ça aussi. En tout cas, au niveau du management, qu'ils avaient coincé Piatti. Mais Piatti a un peu rappelé que voilà, il a son mot à dire et que peut-être qu'il irait ailleurs pour moins cher, mais il irait là où il est désiré.
Oui, mais à 6 millions, contrat garanti, c'est difficile de comprendre. Il est piégé, ou c'est les deux se sont auto-piégés, là, le club et Piatti. Mais bon, tu brises son contrat, il négocie une sortie, demande mon salaire, puis je m'en vais ailleurs, puis il va faire autant d'argent au Mexique ou en Argentine, ça, il n'y a aucun problème.
Exactement. Il faut pas exclure, ça sera pas seulement la MLS la voie de sortie pour...
Moi, je pense que le Mexique, ils sont chauds dessus, là. Depuis 3 ans, les clubs mexicains sont sur Piatti sans arrêt.
Mais ça serait quand même, tu sais, ça serait une grosse surprise de voir Piatti partir dans un gros marché mexicain où là il y a de la pression, de résultats, là, où ça, tu sais, ses vacances MLS se terminent. S'il s'en va au Mexique, là, quand il va rater 2 dribbles consécutifs, il va se faire, il va se faire crier à bref, puis il va très bien comprendre la langue. Là.
Mais le truc par rapport à la saga Piatti, c'est encore une fois, Joey Saputo qui part de façon, on a l'impression que c'est aléatoire, non calculé. Après, on se dit, est-ce qu'il a vraiment calculé ça? Est-ce que c'était vraiment un message qu'il voulait faire passer? Donc, tout le monde spécule. Chacun aura son hypothèse, son théorème, si vous voulez. Et à la fin, t'as une saison catastrophique. Elle est déjà finie. Elle est déjà finie depuis 2 mois. On l'a annoncé ici, avant tout le monde. Et qu'on attend impatiemment les 2 prochaines semaines pour voir les annonces du mercato. C'est tout ce qu'on attend. Et on attend. Là, bon, on a parlé de Cabrera. Il va probablement partir. Piatti, peut-être une surprise en juillet. Peut-être en décembre, on ne sait pas encore. Et Rod Fanny qui va probablement re-signer, qui a notamment des intérêts du RC Lens, qui je pense sont encore en Ligue 2. Mais si j'étais l'Impact, gardez-le pour bien jouer. Mais on avait dit Newton il y a 2 semaines ou à 3 semaines que s'il est pas là pour 2 ans et aider les jeunes joueurs à s'améliorer, dites bye bye. Mais là, je pense qu'ils sont désespérés à avoir un défenseur central potable. Puis Fanny est très bon. Et en MLS, là, honnêtement, je trouve qu'il est genre, c'est pas mal.
Oui, c'est sûr que c'est la qualité du joueur. Personne n'a douté de la qualité du joueur. Le gros point d'interrogation, c'est savoir s'il est capable de jouer 2 mois consécutifs. Tranquillement, pas vite, ce qui va arriver, c'est que cette équipe va être l'équipe de Rémy Garde de plus en plus. Si effectivement Victor Cabrera part, si même le tremblement de terre Piatti arrive, c'est clairement l'équipe de Rémy Garde. Tous ceux qui défendent Rémy Garde, là, vont commencer peut-être à douter de lui si les résultats viennent pas. Là, comme tu as dit, Sofiane, la saison 2018 sert uniquement, peu importe ce qu'ils vont nous dire, mais sert uniquement à la construction de l'Impact de Montréal version Rémy Garde pour 2019-2020. De toute façon, avec l'argent que Joey Saputo a mis sur ce staff-là, il peut pas se retourner, il peut plus kicker des poubelles puis mettre des gens à la porte, là. Il est obligé, même s'il est en désaccord avec la philosophie et le plan de Rémy Garde, il est obligé de l'accepter. Il lui a donné les clés de la maison et du vestiaire. Puis ça va être son équipe. Et si ça devient une catastrophe, ben ils vont reconstruire à zéro dans 2 ans avec un autre entraîneur, avec une autre philosophie. Mais le prochain mois, il va être hyper intéressant. Les signatures, on va en avoir beaucoup à discuter parce que ça va être des options complètement différentes, là. Maintenant, ce n'est, jusqu'à Rémy Garde, c'était l'équipe de Nick DeSantis ou de Braz. Mais beaucoup plus l'équipe de Nick DeSantis, c'était ses joueurs qui étaient les chercher. Maintenant, Nick DeSantis est au service de Rémy Garde. Il est là pour exécuter le plan de Rémy Garde. Est-ce qu'il va réussir à chaque fois? Probablement pas. Mais il faut arrêter, là. À partir du mois après le mercato, c'est clair et net que cette équipe s'en va dans une complète direction différente. Puis le signe de Fanny, c'en est un, là. C'est un plan. Et je sais pas si Rémy Garde finalement a pris conscience du travail qu'il avait à faire, parce que avant, tous les noms qui pouvaient sortir pendant le mercato d'hiver, c'était des noms un peu inconnus. Oui, des connexions un peu avec l'ancien l'Olympique Lyon ou
Aston Villa peut-être.
Ouais, mais là, c'est d'autres choses, là. Il a compris que la MLS, c'est peut-être pas nécessairement un walk in the park comme il aurait pu croire en regardant les matchs de playoff.
Mais moi, je trouve ça inacceptable, là, que on dirait qu'on fait un post-mortem là, depuis un bout là, mais honnêtement, le fait que le club se retrouve dans cette situation et que Joey Saputo dise Je pense, elle a même entrevu avec Filosa sur Piatti, c'est qu'on a sous-estimé la ligue, les autres équipes. J'ai dit, ben, en fait, vous êtes incompétents. C'est cette incompétence qui ressort dans ses propos. Je me dis, c'est une incompétence via une confession. J'ai, ok, on le dit, on souffre maintenant. Vas-y, Nathan, après, je la précise.
Moi, ce qui m'énerve, là, c'est pas seulement de l'incompétence. C'est qu'ils sont dans un espèce d'îlot refermé sur eux-mêmes.
Oui.
Le niveau de la MLS et le niveau de cette équipe-là, tous les observateurs l'ont dit depuis au moins 18 mois. C'est une surprise uniquement pour eux et ça m'énerve.
Sid.
Je pense que sur cet aspect-là, je pense qu'il s'est peut-être mal exprimé. Quand il dit qu'il a sous-estimé la ligue, je pense plutôt qu'il veut dire qu'il a surestimé ses moyens et qu'il pensait peut-être que simplement avec un nouveau staff et les moyens actuels, c'est-à-dire quand je dis moyens, je veux dire les joueurs, que l'arrivée du nouveau staff avec ces joueurs-là aurait suffi pour compétitionner pour une place de série ou pour une place top 4 dans la ligue. Donc je pense pas nécessairement qu'il derrière le sous-estimer, c'est plutôt c'est peut-être effectivement sous-estimer la qualité de son effectif, enfin surestimer la qualité de son effectif et après avoir pris conscience qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'il y a beaucoup de joueurs qui au final n'ont pas le niveau d'être titulaire pour une équipe qui veut aspirer aux plus grands honneurs comme il le souhaite dans le plan quinquennal. Donc ça c'est d'une part. Deuxièmement, ce qui me désole un petit peu, c'est qu'encore une fois on est dans la saga Piatti, les propos de Joey, on est un peu dans l'espèce de ce drama ambiant, ouais. Alors qu'il y a une victoire 3-0, il y a un système de jeu qui se met en place, un 4-2-3-1 assez intéressant. Il y avait 10 jours dans lesquels l'Impact pouvait surfer sur cette victoire et sur la Coupe du Monde avant de rejouer contre Orlando. Donc en plus ils ont quand même un calendrier qui leur est favorable. Et pour autant, ben non. Après quelques mots, enfin des mots qui sont très bien réfléchis, hein, comme je dis, hein, il y a un contexte. On repart dans ça. On repart dans cette saison de transition et puis je trouve ça vraiment dommage et c'est toujours ça un petit peu
mais c'est ça l'histoire de l'Impact ça l'histoire de l'Impact, c'est un gâchis éternel, c'est ça le truc, c'est l'éternel reconstruction comme tu as dit, mais c'est un gâchis sans arrêt, puis il y a personne qui les force, ils font les erreurs par eux-mêmes, personne, il y a pas un complot, c'est plus Don Garber, c'est plus la faute à Atlanta, il y a pas le méchant Mercato, c'est ça qui est embêtant. Et puis en plus la frustration sur Twitter se sent, on a eu des le fameux rant Tony Marinaro, Rémi Garde, anglo aiment pas les Français, blablabla, alors que c'était faux. Les médias anglo, les médias franco, ils ont pas d'agenda secret officiellement, là. Du moins, moi, je le sais pas. Mais même les fans, même les gens, il y a une certaine frustration, on le sent. Quand tu te prends, ils sont à 12 défaites ou 11 défaites. Et même malgré ça, mathématiquement, ils croient encore aux séries, puis tant mieux, hein. Ça peut aider le jeu et le modèle de jeu de l'Impact. Mais c'est vraiment lourd comme ambiance, c'est frustrant, c'est un peu maladif, et ça devient très, comment dire, j'allais dire le mot incestuel, mais c'est pas le bon mot, mais c'est vraiment, genre, c'est un cycle vicieux, et qui se répète, et qu'on prédit, et en plus, tout le monde l'a prédit en même temps, puis on s'est dit, ouais, ils font les mêmes erreurs qu'avant, donc tu répètes les mêmes erreurs, tout le monde s'est amélioré, et en plus, moi, je trouve que, comme Ribiard, on le sait qu'il y avait un contrôle beaucoup plus grand sur son effectif qu'on pensait au début, je trouve que lui aussi a fait des grosses erreurs, pour pas faire des grosses conneries pour prévoir sa saison. Il a vu quoi comme match? Il a vraiment vu du match de MLS à part les playoffs? Il a vraiment fait du scouting minimum pour dire comment ça joue, qui sont les joueurs que les autres équipes recrutent? Je pense pas qu'il l'a fait. On a vu des améliorations. Duel Basque a amélioré Van Bush, tant mieux. Le fitness de l'Impact est un peu mieux, tant mieux. Mais cette première moitié de saison est vraiment ratée totalement, mais de façon catastrophique. Un peu de malchance, Nilton n'aime pas ça, il y a eu un peu de malchance qui aurait pu donner un petit 10% de victoire et de positivisme à cette première moitié de saison, mais la malchance vient avec tes erreurs et la chance vient avec ce que tu fais de bien. Donc voilà. Georges, excuse-moi, je parle trop là.
Non, c'est bien. C'est moi, le nouveau buzzword, c'est malchance, on l'utilise à toutes les sauces là. On oublie quand on est chanceux, mais ça sert à rien de c'est éviter la vraie discussion de ce club-là, parler de malchance comme l'année passée on parlait de d'autres concepts là, ce concept-là on va le brûler cette année de malchance, mais tu sais c'est pas de la malchance là. Quand t'as des vétérans avec beaucoup de minutes dans les jambes puis qui se blessent dans l'entraînement ou en match, ça s'appelle pas de la malchance là. Ça s'appelle une mauvaise planification. Quand t'as ces vétérans là puis que t'as d'autres vétérans comme ça sur le banc au cas qui c'est sûr que finalement tu vas te retrouver avec un match où t'es obligé de mettre Donadel en défense centrale. C'est pas de la malchance. Fisher, on le savait. Cabrera, il a jamais connu une saison complète. Diallo et Fanny, on pensait vraiment qu'ils allaient sortir 30 matchs. Mais non, c'est impossible. Là. Tu peux pas. C'est la malchance de voir un gars comme Vargas avoir des hauts et des bas. Oui, marquer 4. Non, on peut pas parler de malchance. Non. Tu peux pas parler de malchance quand un ballon touche le poteau ou c'est les mauvais calls d'arbitre. Il y en a autant pour nous. C'est un concept qui nous nuit. Tu sais, si le club le dit. Si les fans le disent, c'est quelque chose, c'est même normal, c'est notre rôle. Mais qu'un entraîneur et tout son entourage communiquent, à moins que ce soit une stratégie pour calmer les joueurs, mais j'ose croire que non, mais si c'est vraiment ce qu'ils pensent eux, qui sont rendus à ce point-là à cause, en bonne partie, pas totalement, mais en bonne partie à cause de malchance, c'est une très mauvaise nouvelle là, pour le futur du club.
Sid, autre chose avant qu'on passe ou
Non, je rejoins Nilton un peu sur la malchance et certains faits de jeu, oui, qui sont défavorables, mais je crois que finalement c'est un peu partout pareil dans la ligue. Puis après, il faut, comme on dit, la chance, ça se provoque, et puis l'impact n'est pas toujours dans la position de provoquer la chance ou par son attitude à différents niveaux. Hein, je parle vraiment des joueurs. Donc non, j'avoue que j'achète pas vraiment ça. Puis je trouve que Rémi Garde de l'équipe énormément par ses décisions tactiques, par les choix de joueurs qu'il fait. Je pense que ce dernier podcast que vous avez dit, Donadel est mis de côté. Et puis je trouve ça intéressant parce que il y a une mini polémique Donadel à son lorsque il voulait une place, il était encore sur la liste des blessés internationaux, des blessés à long terme, et on se demandait s'il allait revenir dans l'effectif. Il l'a fait jouer en remplacement d'un central quand tout le monde a eu une hécatombe en défense centrale. Mais maintenant, depuis, il est apte à jouer et il ne joue pas. Et Rémi Garde, il a vraiment clairement montré qui sont les joueurs avec qui il veut avancer. Et finalement, tous ceux qui sont pas là, c'est très, très, très clair quand on regarde le nombre de minutes jouées dans l'effectif, qui sont les joueurs de Rémi Garde et qui ne sont pas, en tout cas, qui sont les joueurs avec lesquels il veut avancer et qui sont les joueurs dont le club pourrait se débarrasser demain matin et ça lui ferait ni chaud ni froid.
Non, c'est vrai. Puis le retour de Camacho, de sa blessure, il voit Cabrera mis de côté. Est-ce qu'il est vraiment blessé, Cabrera? Moi, le théorie du complot, ça m'intéresse pas, mais c'est très possible qu'il n'est pas si blessé que ça. Mais voilà, Camacho, c'est son gars. Rod Fanny, il va être renouvelé probablement cette semaine. Donc, voilà, il y a tout ce tralala. Puis en plus, bon, la bonne nouvelle, on va parler un peu de la bonne nouvelle du mercato, c'est que, comme t'avais dit Nilton il y a deux semaines, l'Impact cherche à enlever le
oui, c'est un petit point, juste un petit point. Ce qui me déçoit peut-être, c'est que les joueurs qui peut-être actuellement sont dans le 11 ou dans le 14 et qui sont du bois mort, j'aurais aimé peut-être qu'ils soient remplacés par des jeunes, des joueurs formés à l'Impact de Montréal. Mais de façon véritablement officielle, c'est-à-dire que tous les joueurs que Rémi Garde ne compte pas sur eux en 2019, je préfère que tu donnes des minutes à des futurs joueurs de l'Impact de Montréal. Donc voilà, c'est pas un débat pour réouvrir. C'est pas, je veux pas réouvrir le débat sur l'Impact de Montréal ou autre. Mais voilà, je pense que dans l'académie, il y en a peut-être aujourd'hui qui ont 19-20 ans, qui ont peut-être 2-3 qui peuvent aspirer à une carrière MLS. Ben j'aurais aimé que tout de suite ces gens-là soient là. Et maintenant, tu es Vargas, je le vois un peu comme un projet. Tu sais, je me rappelle quand même qu'il a 20-21 ans.
Oui.
J'attends plus, certes, oui, effectivement, mais en même temps, voilà, il a 21 ans. Je peux pas avoir le même constat sur son activité, ses performances que j'ai sur Mancosu, par exemple, à 31 ans et la série B, etc., etc. Donc voilà, c'est peut-être mon seul regret un petit peu sur cette saison et l'utilisation de son effectif.
Non, mais c'est vrai. Et puis pour Vargas, oui, il est très jeune dans un projet, donc je le considère autant qu'un Chouanière ou qu'un meilleur giga dans en termes d'âge, ouais. En termes d'âge. Mais maintenant, ce que je veux voir.
C'est un investissement.
Oui. Puis c'était pas un crack avant de venir. Donc on savait qu'il y aurait du développement à faire. C'est du développement qui coûte cher, qui va coûter cher à l'impact. Mais meilleur giga, Pantémis, tous ces gars-là, Crepo qui va peut-être pas revenir à l'impact. En amont, ces gars-là, ils sont pas là. Hein. Meilleur giga est à Ottawa, ouais. Il s'amuse. Chouanière, il est blessé. Chaumy, il va pas jouer, mais il est là pour remplir le quota du joueur canadien. En plus, il est joueur Adidas, génération Adidas, donc il coûte pas très cher sur la masse salariale en théorie. Donc il y a pas tant de joueurs que ça, quoi. Puis si je suis d'accord avec Sidney, il faut les intégrer, mais cette année c'est trop tard. Ils vont pas les ramener en juillet puis venez les gars, on va s'amuser. Ils vont pas ramener Balbouli puis les deux gars qui étaient avec Chaumy à Toulon. J'en vois plus. Il y avait en tout cas le jeune d'origine camerounaise, j'oublie son nom, mais
Clément Bayan.
Voilà, mm-hmm. ils vont pas les ramener en juillet pour jouer. Peut-être ils vont les intégrer au groupe pro pour s'entraîner.
Mais il y a un problème administratif. Il y a un problème administratif. Là on voit une faille dans les règlements de la MLS, c'est que ils doivent donner des contrats à MLS. Puis il y a plus de place dans l'effectif pour faire ce genre de manœuvre là. Oui. C'est clair, c'est pas à moi je me trompe, en Europe, tu peux toujours faire jouer quelqu'un de l'académie sans tu sais, tu peux lui donner, tu peux utiliser un contrat jeune pour le faire jouer, en tout cas, c'est pas il y a pas les contraintes MLS. Si l'Impact de Montréal décidait bon, je vais dire n'importe quoi, Vincent Lamy, il veut lui donner quelques minutes parce que nos deux avant-centres sont morts. Il peut pas juste lui donner un 90 minutes puis espérer.
C'est un très bon point, Nilton. C'est vraiment un éclairage et c'est très intéressant parce que c'est vrai que peut-être qu'il aimerait faire ça et qu'il ne peut pas parce que la ligue, la manière dont elle est construite, sur l'octroi des contrats, c'est pas possible. Et c'est un excellent point,
Point. Puis c'est pas un problème qui est seulement spécifique à l'Impact de Montréal. C'est sûr qu'il va avoir ces genres de conversations. Il va falloir, pour le bien de la MLS, pour les biens des joueurs nord-américains, qu'ils puissent avoir un statut un peu spécial où tu peux faire jouer quelqu'un de l'académie sans nécessairement lui donner un contrat à long terme, barrer une place dans l'effectif à long terme pour la saison, tu sais, puis et comme ça ils utilisent parce que autrement tu peux pas, tu sais, là on a Louis Bélanguyot qui est blessé pour 2 mois, on peut pas l'utiliser puis c'est exactement la position où on a besoin. S'il y a quelqu'un qui est en train de se développer qui connaît une bonne saison dans l'académie, mais tu peux pas, donc il y a toutes ces contraintes là que on a le réflexe nord-américain, c'est-à-dire une équipe connaît des difficultés, mais prépare la relève dès maintenant. Mais les règles encore MLS sont pas tout à fait à point pour ce genre de situation-là.
Non, c'est vrai. Puis encore une fois, comme a dit Sidney, on va pas ouvrir le débat à FC Montréal. Mais en même temps, c'est une question que t'es bon ou t'es pas assez bon pour être dans un groupe pro par rapport au standard du club, parce que t'as le club qui doit à un moment imposer des choix. En Europe, il y a beaucoup de clubs qui imposent des jeunes à d'autres coachs, mais il faut que tu intègres le groupe pro parce qu'on veut qu'ils soient dans l'environnement. Je parle pas de Manchester United, mais d'autres clubs le font. Donc, il faut arriver à ce point-là. Mais en même temps, tu n'auras pas des ballots à chaque année. Si tu en as, si tu fais un bon travail de recrutement dans les jeunes, parmi les jeunes du Québec, mais aussi, tu es capable d'être développé pour les ramener plus proches d'avoir le niveau d'un groupe pro. Donc, tout ça, toute cette poutine ensemble, cette ratatouille doit bien mijoter pour donner quelque chose de bien. Puis ça, c'est du long terme. L'académie est encore jeune. Ça fait à peine peut-être 6 ans maintenant, 7 ans, si je suis encore compté. Donc, c'est encore jeune. Puis, on va voir ce que ça vaut, les fameux U14 au tournoi international de l'Impact en juillet au centre du Trélé. Donc, voilà. Du côté, en termes de flexibilité, je voulais revenir sur Saphir Tider. C'est que, t'avais dit, Nilton, qu'on a enlevé son fameux tag joueur désigné en faisant des combines financières pour prendre cette place-là et l'utiliser pour un joueur qui va arriver dans les prochaines semaines parce que c'est le mercato. Ils vont être annoncés cette semaine prochaine, d'ici juillet, mais un ou deux joueurs vont être annoncés. L'Impact va à 99% faire des moves. Ça c'est évident. Et justement, par rapport à ça, Nilton, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de positif du côté du management de l'Impact de se donner cette flexibilité ou est-ce que c'est juste de la communication pour faire oublier Jim Miley ou Bernier, je suis pas sûr.
C'est probablement à deux niveaux. T'sais, c'est sûr qu'ils font pas uniquement pour retirer de la pression sur Saphir Tider puis le faire. Parce que dans le fond, Tider, il a le même contrat que Silva. Là, puis avec Silva, on est quand même un peu plus indulgent, même si on est déçu par son par ses performances sur le terrain. On est beaucoup plus sévère sur Tider. Pourtant, lui, il fait quand même du beau travail sur le terrain, mais ils ont le même contrat. C'est juste que, bon, à l'époque, quand Blérim est parti, ben il restait une place. Hein. Ça faisait bien aussi au niveau com. C'est-à-dire, on a trouvé le remplaçant de Blérim. Là, on a Saphir ici. Voilà, c'est le prochain DP. Puis ça faisait l'affaire du joueur et ça faisait aussi l'affaire de Joey Saputo. Mais là, concrètement parlant, on n'a pas besoin d'avoir un DP, le tag DP sur Saphir. Donc, ça fait sens là, c'est de le mettre au même niveau que Camacho, au même niveau que Fanny, que Silva, et lui avoir, c'est-à-dire un vrai tag, là, c'est-à-dire le fameux terme TAM player. Mais comme je l'avais dit, sans trop me répéter, là, lors du dernier podcast, pour faire ça, en plein milieu de la saison, c'est une opération en deux temps. Quand tu retires un tag DP à un joueur avec du TAM, c'est spécifiquement pour pouvoir signer un DP. Donc, un joueur DP, sans l'utilisation du TAM, mais là, on parle d'un joueur qui va coûter un peu plus que 1,5 million. Là.
Ouais.
Et certains demandaient pourquoi faire ça, parce que de toute façon, on a le droit à 3 DP par équipe, mais en regardant un peu plus les règles MLS, on voit très bien que avoir 2 DP, il y a des avantages, pas seulement financiers, mais aussi au niveau règles. Tu te retrouves dans une liste, dans le fond, qui bénéficie de l'argent de la location en ayant seulement 2 DP. Et le troisième DP va coûter 150 000 $ supplémentaires que tu dois payer à la Ligue. Puis c'est cet argent-là, ouais, recueilli par toutes les équipes à 3 DP qui sert à transférer de l'argent de la location aux équipes, disons, moins riches. Là.
Allô, Adam Braz? Oui, Nilton, c'est pour toi. Il veut te parler. Donc, pour ceux du podcast, j'ai mis mon téléphone.
Mais c'est peut-être lui qui me parle, on ne sait pas.
C'est peut-être ça. Non, mais c'est très belle explication de Nilton, c'est vraiment parfait. Et puis, c'est important, cette flexibilité financière et les règles magiques de la MLS qui t'oblige qui t'impose des restrictions, là, qui en même temps te donne la liberté à ramener des joueurs. Donc, l'Impact se prépare à un gros move. Je pense pas qu'ils vont chercher Ronaldinho, mais ils cherchent un joueur offensif, j'espère pour eux.
Ben oui,
avec Mancuso, Jackson Hamel, je pense que c'est le moment de chercher un attaque en pointe ou un numéro 10. Un joueur offensif qui est capable de marquer, de faire créer des buts, et j'espère marquer des buts surtout. Donc, peut-être une annonce imminente, on attend. On n'a pas encore de nouvelles sur ça, mais sinon, c'est Twitter, @CanFootClub. Sinon, Nilton George, c'est @NiltonGeorge, J-O-R-G-E. Sid @Solambe, S-O-L-A-M-B-Y, et moi @SofianBenzaza pour suivre les
exclus. Je ne veux pas me renvoyer ça à Nilton.
Non, mais peut-être tu vas tweeter dessus ou tu vas donner une analyse experte dessus là. Puis
Sid, il veut pas gérer ça, c'est trop de problèmes.
Ah non, Sid, il est occupé avec le mondial, ok. Il est occupé avec trop de poutine, il est occupé avec un AFC. On n'a pas le temps les rumeurs. Ça c'est Nilton. Puis tous les ghost followers. Donc ouais. Donc, est-ce que
mais ce qui est pas intéressant, oui, c'est pas seulement le. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les prochaines signatures de Rémi Garn, c'est le type de joueur. Pas seulement sur le terrain, là, on sait c'est quoi les problèmes, là, on est capable d'identifier tout le monde, c'est où nos besoins. Mais tu sais, faut pas oublier, tu sais, Rémi Garn a dit beaucoup de choses là, mais une des premières choses qu'il a dit, c'était le manque de professionnalisme, de ça, la culture de l'entraînement. C'est tout des trucs comme ça, là. Donc, forcément, quand on entend des rumeurs comme, par exemple, rumeurs ou souhaits, un Ben Arfa, ça fait un peu moins de sens, là. Un gars, tu sais, oui, sur le terrain, il va dominer, mais on s'entend que au niveau influence vestiaire, ça, c'est pas tout à fait à point, là. Ça peut mal tourner. Donc, j'ai très, très hâte de voir
les profils, l'expérience, le caractère et l'attitude. Donc, ouais, ça, c'est important. Si tu voulais parler un peu de la culture.
Non, pas nécessairement, mais je veux juste rebondir sur Ben Arfa. Je crois que toutes ces rumeurs trop évidentes sont simplement du wishful thinking. Puis, on a beaucoup lié Rémi Garn à des anciens Lyonnais. Je parle vraiment, ça c'est juste mon opinion, je crois qu'il y a strictement rien, mais rien du tout. Il y a simplement du fait que dans la tête des gens, ça clique, donc voilà, ce sera un bon fit. Mais Ben Arfa, peut-être qu'après, voilà, à force d'en parler, il y a quelque chose qui, il y a un coup de téléphone qui peut se passer et puis voilà. Mais je crois sincèrement que, voilà, tous ces rumeurs trop faciles que n'importe qui peut faire en jouant à FIFA, ben, c'est pas.
Les rumeurs à la con. Les rumeurs à la con. On a gelé Sid avec ce commentaire.
Il dit plus rien, il s'applique pas. Non, mais il faut que les gens comprennent, relier des rumeurs, traduire des rumeurs d'ailleurs ou des articles et aussi donner des infos exclusives qu'elles sont bonnes ou pas. Tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit d'avoir raison. Ça veut dire que c'est une mauvaise personne. Nilton, c'est un bon gars. Je l'aime bien. Donc, voilà. Non, mais moi aussi, je suis une bonne personne.
Et c'est pas du tout là où je veux en venir. Vous êtes tous très bien, là. Mais c'est pas ça le point.
C'est CCPP, là. Il y a aucun ordre.
Non, mais par exemple, c'est regarder la Coupe du Monde, voir un joueur qui marque un but et se dire, ah, ce serait bien à l'impact et dire qu'il y a une rumeur par rapport à ça. Non, arrêtez. C'est simplement que c'est un joueur que vous ne connaissez pas et qui répond à un problème que l'Impact a. Mais même si ce joueur-là a connu Rémi Garde ou un autre joueur de l'Impact dans sa carrière, ça en fait pas un transfert même potentiel. C'est ça. En fait, c'est plus ce côté-là. Donc, je crois qu'il y a quand même beaucoup de noms qui ont été lancés en janvier-février où il y avait strictement rien comme contact établi.
Ouais, surtout des noms un peu trop évidents. Il faut aller chercher les noms qui sont moins évidents, puis il y en a tellement que l'embarras du choix. Et puis, moi, je suis d'accord, c'est le profil, la connexion avec Garde, le caractère, l'attitude, et ce qui peut apporter de plus sur le jeu et sur le vestiaire. Ça, c'est important. Maintenant, ouais. Le vestiaire qui s'est fait déjà engueulé par Joe Saputo une fois, le vestiaire a pas besoin de faire engueuler, a besoin d'avoir des bons joueurs pour gagner des matchs. Safi Tardar, je vous garantis, ça va mieux jouer quand il y a des joueurs potables devant lui. Et encore une fois, tous les Tider haters, il le prouve à chaque fois quand l'Impact joue bien, ce que lui joue bien. Il porte l'équipe vers le haut avec le collectif. Donc voilà, moi je dis ça comme ça. Bon messieurs, ça conclut la section Impact de ce podcast. Est-ce que vous êtes chaud à continuer à parler du mondial en live ou comme vous voulez?
Oui.
Oui.
On clôture ce podcast-là et on en fait un autre mondial ou?
Exactement. Le live continue, mais on va arrêter. On va dire tout le monde merci pour les gens qui écoutent ce podcast. Merci de nous avoir écoutés pour ce CPPP CANFC édition Impact. On se enregistre le 17 juin 2017. C'est l'édition post victoire 3-0 contre l'Orlando et aussi édition pré-mercato. Donc merci de nous avoir écoutés. Sur la plateforme Blado Diffusion.
Est-ce que tu me permets quelques messages?
Oui, oui, bien sûr. J'ai pas prêt à prouver, mais c'est pas grave.
Alors, je veux remercier Gaul Initiative et évidemment Paul Desbaillets pour le tournoi de caritatif auquel j'ai participé ce dimanche. Donc, allez voir sur la story de Trop Poutine. Vous allez pouvoir voir quelques photos. Donc, c'est un tournoi qui est organisé pour vraiment lever beaucoup de fonds et aider de nombreuses associations communautaires qui empower, comme on dit, les communautés. Donc, vraiment, c'était un très, très bel événement. Donc, merci beaucoup à Paul Desbaillets, à Lisa Lee, nous avoir accueillis. Et puis, on va relayer quelques informations post-événement par rapport à ça. Puis, je voulais aussi féliciter les filles de Geek et de mon ami Kenol, donc le club de futsal de Cinque Stelle qui a gagné un tournoi international à Nantes. Donc voilà, c'est une belle gang de joueuses de soccer qui ont fait très belle figure dans un mondial de club de futsal. Donc bravo à elle. Et aussi un petit coucou spécial à Luan Schlitt qui va être en Russie et qui va pouvoir représenter le CANFC en Russie. Donc coucou à lui et puis voilà, puis amuse-toi bien Luan. On pense à toi.
Excellent. Donc tous ceux qui sont écoutent via le podcast, merci d'avoir écouté cet épisode 100% Impact. Pour le live, on continue le mondial et pour ceux du podcast qui veulent écouter le podcast sur le mondial édition CCPP plus Sid, vous abonnez sur la plateforme cinq.com/CANFootballClub. Vous voulez nous supporter, notre page Patreon, patreon.com/CANFootballClub. Vous voulez acheter du gear pour nous aider, tropoutine.com, collection soccer locale et d'autres items de Tropoutine. Tu nous écoutes sur Spreaker, SoundCloud, iTunes, les mots-clés CANFootballClub plus et tu t'abonnes. Facebook, Twitter, Instagram. Va chercher pour le CANFootballClub, tu vas le trouver. Donc, merci aux gens du podcast. À la prochaine. Ciao tout le monde.